Dans notre préparation à la venue de Noël, j'aimerais que nous puissions lire ce matin dans l'évangile de Jean les premiers versets de ce chapitre. Vous connaissez ce texte, mais il a tellement de choses encore et encore à nous communiquer, à nous apprendre. Donc Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La semaine dernière, Catherine nous avait introduit, en parlant de la lumière, les bougies sont encore là, hein, Christ, la lumière du monde, et puis ben, le fait que dans cette période de novembre, maintenant décembre, pardon, les jours les plus courts de l'année, on a besoin de lumière. Et ce passage nous parle de cela. Mais c'est intéressant, un petit peu comme ce matin déjà Sam le disait, nous sommes habitués à être des consommateurs. On n'est pas plus mauvais que les autres, mais on est né dans une culture comme ça. Hein. Et donc notre lecture des Écritures est aussi dans ce sens-là. Lorsque nous pensons à la lumière, à quoi nous pensons ? Ben, la lumière, elle me réchauffe, elle me fait du bien, hein, elle fait que je me sens moins triste, je me sens moins seul, j'ai pas peur. Et tous ces aspects-là sont vrais, bien sûr. Mais le sens premier de ce texte, c'est quand même que la lumière est là pour que nos yeux voient la vérité. Et ce côté-là, il nous intéresse moins, parce que qu'est-ce que ça va apporter à mon confort personnel ? Hein? Ou en tout cas, on ne fait pas le lien directement entre la vérité et le fait que je vive comme je dois vivre, hein? Et donc que je sois rempli par Dieu, et donc que je sois satisfait. Hein? Mais on a une lecture, encore une fois, de consommateur qui fait que « Oh Seigneur, j'aime que ta lumière me réchauffe. J'aime que ta lumière éclaire un peu autour de moi pour pas que j'aie peur. » J'aime que ta lumière soit allumée, comme ça, il y a une présence, il y a quelqu'un. Hein. Le soir, je me dis, ouh, il y a une petite lumière, Dieu est là, ça me fait du bien. Pendant que je suis bien au chaud et que je regarde mon petit film, ça me fait plaisir. Hein. Et c'est vrai, mais c'est plus que ça. Hein. Et si on n'a qu'un des morceaux, il va nous manquer quelque chose. Je ne veux pas commencer par la conclusion, mais ce passage se termine en disant, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette grâce et cette vérité qui ont été révélées dans la personne de Jésus, on ne peut pas les dissocier. Il faudrait prendre Jésus et le couper en deux. Et si on coupe Jésus en deux, il est plus vivant, il est mort. La grâce sans la vérité, bah c'est juste, je fais ce qui est cool, c'est bien, c'est gentil, c'est agréable. La vérité sans la grâce, c'est le légalisme, ça tue. C'est vrai, mais ça tue, ça donne pas la vie. Et les deux semblaient inconciliables. Et les deux se sont rencontrés dans la personne de Jésus-Christ, parce que Dieu est à la fois grâce et vérité, et beaucoup d'autres choses. Mais il est ces deux choses-là. C'est pas qu'il fait grâce et de temps en temps il dit la vérité. Dans sa personne, il est ces deux choses-là ensemble. Et Jésus-Christ est venu nous montrer comment c'était possible que les deux soient là en même temps, je dirais. La grâce et la vérité. Par Jésus-Christ. Alors, ça c'est ce qu'on C'est vers ça qu'on va aller, mais je veux reprendre depuis le début. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je fais juste une petite parenthèse, peut-être pour certains ça va vous faire sourire, mais j'ai rencontré des chrétiens évangéliques qui pensaient que là ça parlait de la Bible. Au début était la Bible et la Bible était là avec Dieu, etc. Oui, la Bible est la révélation de la pensée de Dieu, mais c'est pas de ça qu'il est parlé ici. Il est parlé de Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. D'accord, mais c'est quand même important pour pas qu'on tombe dans le cliché que certains charismatiques peuvent reprocher aux évangéliques. Hein. Ah, mais vous avez une drôle de trinité, vous avez le Père, le Fils et la parole de Dieu, enfin la Bible. Hein. Non, la Bible est la manifestation, l'expression écrite de la pensée de Dieu. Mais la parole, là, quand il est parlé de la parole, c'est Jésus-Christ. Hein. Et bien sûr que la Bible exprime la pensée de Jésus-Christ, il n'y a aucune contradiction. Mais c'est quand même une chose qui est importante à préciser. Elle était au commencement avec Dieu, puisqu'elle est Dieu, tout a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lorsqu'il est parlé de la vie ici, il est parlé de beaucoup plus que la vie biologique. Bien sûr qu'il y a cette partie-là, exister, respirer, avoir une vie. Vous savez que j'ai souvent parlé des croyants concombres. Récemment, on a trouvé mieux, c'était le concombre de mer. Parce que c'est à la fois un légume et un mollusque. C'est le maximum. On peut pas faire mieux. Hein. Le chrétien concombre de mer, il existe. Dieu existe, j'existe, et c'est bien. Il pense pas, il réfléchit pas, il décide pas, il va nulle part, il vient de nulle part. Il croit en Dieu, hein, quelque part au fond de la mer. Concombre de mer, c'est beau ça. Hein. Puis si vous voyez les photos, c'est génial. Hein. Ça ressemble effectivement à un concombre, mais tout mou. Donc, même la couleur est pas nette, quoi. C'est une horreur. C'est même pas un bon fruit de mer à manger, en plus. Ni un bon légume à manger. Mais en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. De quoi nous parle la lumière ici? C'est pas juste du soleil et du principe de la lumière qui fait que les herbes poussent et que la photosynthèse peut se faire. La lumière nous parle de la capacité à voir clair, donc à avoir une pensée précise. Dieu n'est pas une force bizarre qui fait qu'il y a des choses vivantes quelque part et qui pense rien sur rien ou tout sur tout, on ne sait pas trop, c'est juste le principe de vie. Dieu est intelligent et nous avons été créés à son image, mais on n'est pas intelligent comme Dieu bien sûr, et en plus il y a le péché qui nous a obscurcis, mais Dieu a une pensée précise sur chaque chose. Dieu sait ce qu'il pense. Et en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que pour Adam et Ève, avant la chute, c'est de là que ça parle, hein, tout ce qu'ils pensaient venait de ce que Dieu leur disait. Ce qu'ils savaient n'était pas des suppositions, c'était pas « Ah, je sens, il me semble, je pense que, j'ai l'impression, je... » Non, ce qu'ils savaient était vrai. C'était ce que Dieu savait sur... Et dans tous les domaines, hein, que ce soit la vie des animaux, leur vie physique à eux en tant qu'hommes et femmes, mais dans leur relation avec Dieu, dans leur relation avec les autres, la vie était la lumière. Mais bon, il y a eu le péché, et c'est pour ça qu'il y a eu les ténèbres. Et la lumière brille dans les ténèbres, et Dieu n'a pas abandonné, et il a envoyé son Fils, la parole qui est au début, qui est au commencement, Jésus-Christ, pour être de nouveau cette lumière dans les ténèbres. Alors effectivement, lumière pour nous éclairer, pour nous rassurer, pour nous faire du bien, bien sûr. Mais lumière pour nous permettre de nouveau de penser correctement. C'est-à-dire de penser avec Dieu, de penser comme Dieu. Sans, c'est pas Dieu et moi sur un pied d'égalité. Hein. Mais lorsque je comprends ce que Dieu pense et que j'accueille cette pensée, c'est ça la foi, hein. Je pense la même chose que lui. J'ai souvent dit, la vérité existe en elle-même, elle est l'expression de la personne de Dieu, et des fois je m'y tiens dedans, des fois je suis à l'extérieur. C'est pour ça que chaque fois que des êtres humains, ou des groupements d'êtres humains, ou quels qu'ils soient, ont proclamé, nous avons la vérité, sauf si ça veut dire, nous connaissons Jésus-Christ, qui est la vérité, ils sont dans l'erreur. La vérité, je la détiens pas, je lui appartiens par moment, et le but de nos vies, c'est de lui appartenir de plus en plus, et dans la quantité et dans le temps. Hein. Mais la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Le mot pour accueillir ici, il y a trois mots qu'on va trouver qui vont revenir souvent dans ce passage, hein, qui sont traduits par accueillir, recevoir ou croire. Et les trois sont très très proches, c'est des synonymes. Le premier ici, les ténèbres ne l'ont pas accueilli, littéralement c'est un mot qui veut dire se saisir, s'approprier, se faire sien. La lumière est venue, les gens l'ont vu passer, mais ils ne se la sont pas appropriés. Littéralement, dans une première application, ça parle ici du peuple d'Israël. La lumière de la loi, la lumière des prophètes, toutes ces lumières-là qui ont été. Et ils l'ont vu passer, il y a des individus qui l'ont saisi, David, Abraham avant lui et d'autres, etc. Mais la plupart, en tant que nation, ils l'ont laissé passer. Ils n'ont pas voulu la saisir. Et puis, il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, donc Jean le Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Il fallait préparer. Parce que le problème avec la lumière, c'est qu'il faut d'abord des yeux pour la voir. Il peut y avoir de la lumière, mais si j'ai pas l'organe qu'il faut pour m'en apercevoir, je peux sentir sa chaleur éventuellement, mais enfin, c'est limité, quoi. Donc Jean, il venait déjà pour ouvrir les yeux. Attention, et je suis pas la lumière, mais il y a la lumière qui vient. Plus concrètement, vous pensez être le peuple de Dieu, et vous l'êtes, mais vous pensez faux. Vous êtes à côté. Vous êtes dans un système religieux qui n'est pas la pensée de Dieu. La lumière va venir et vous montrer comment il vous faut comprendre. Mais il va vous falloir la recevoir. Donc il y a eu Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière qui va venir, donc Jésus qui arrive, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le mot véritable en français comme en grec, il y a le mot vérité dedans. C'est-à-dire que c'est celle qui est l'authentique. Celle qui... Il n'y a rien qui n'est pas parfaitement juste dedans. Et s'il est parlé ici de véritable lumière... C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières. On peut dire comment il peut y avoir de la vraie lumière et de la fausse lumière. Mais on est dans un monde d'images. Mais déjà dans l'Ancien Testament, dans le psaume 36, verset 9, il est dit « Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Le même rapport, vie et lumière. « Auprès de toi, par la Dieu, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Jésus a repris la même chose, la même idée, en disant, en plusieurs endroits, mais je vous cite un verset dans Matthieu 6, 23, « Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, nos vies spirituelles, mais tous les autres, nous réfléchissons, nous analysons, nous faisons des plans, des calculs, etc., en prenant des points de départ. C'est pas du tout mon domaine, mais donc j'ai vérifié dans le dictionnaire. En mathématiques, ça s'appelle un axiome. C'est peut-être me corriger, mais apparemment c'est ça. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être prouvé ou qui ne peut pas être prouvé, ça dépend. Mais qu'on prend comme point de départ, et à partir de là, on construit un raisonnement. Dans nos vies, nous fonctionnons comme ça. Nous avons des axiomes dans tous les domaines. Et sur ce fondement-là, nous développons normalement un raisonnement intelligent. Mais si ce point de départ est faux, que je le sache ou pas, je peux avoir un raisonnement parfait, être convaincu d'avoir raison, c'est pour ça que on peut mourir pour une idée fausse, en étant sincère. Mais j'ai tort, pourquoi? Parce que ma lumière n'est pas la véritable lumière. Un exemple très concret. L'évangélisation, c'est pour les jeunes. Si c'est un axiome dans ma vie, quand il y a un moment d'évangélisation dans l'église, je me dis, ah ben moi, je vais prier pour ça, c'est pas ma place puisque c'est pour les jeunes. Je suis motivé, j'y crois, mais je reste à la maison et je prie. Si j'ai cet axiome dans ma vie, mon comportement est cohérent avec ce que je crois quand je reste à la maison et que je prie pour ça. Donc c'est pas, je parle pas de quelqu'un qui s'en moque ici, qui dit, oh, j'en ai rien à faire. Mais quelqu'un qui est sérieux, mais qui croit ça. Donc c'est pas pour lui. Alors il fait autre chose. Et puis il prie pour ça, ce qui est super, il faut le faire. Mais si la véritable lumière vient, et puis la parole de Dieu dit que c'est pour tout le monde. Ah, mais alors j'ai faux. Mais je le savais pas. Donc je ne peux même pas me remettre en question, je ne le sais pas. Hein. Il y a des croyants qui pensent que la Bible dit qu'il faut être au culte à 10h le dimanche matin. Évidemment que c'est bien de se retrouver ensemble en tant que croyant, la Bible le dit, mais c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut être quelque part le dimanche matin à 10h. C'est une façon de faire. Donc le jour où il y a un rassemblement à 17h, ben j'y vais pas, c'est pas le culte. Parce que l'axiome, c'est que le culte, c'est le dimanche matin à 10h dans la salle qu'on appelle l'église. Tout est faux là-dedans. L'église, c'est pas un bâtiment, il n'y a rien qui dit que c'est le dimanche matin, il n'y a rien qui dit que c'est à 10h. Hein? Mais si c'est ce que je crois parce qu'on me l'a dit, et puis j'ai pas vérifié, ou je sais pas, en fait, je pense ça, hein? Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Je prends des petits exemples simples et j'allais dire bêtes presque, hein? Mais on peut l'appliquer à tout. Hein? Lever les mains, c'est charismatique. Pourquoi? Ben, les charismatiques le font. Hein? Faire du porte-à-porte, c'est pour les témoins de Jéhovah. Des choses comme ça, on n'a pas, on n'a jamais réfléchi ou on l'a accepté, on l'a pris comme ça. Et là-dessus, je construis mon raisonnement. Mais ma lumière est ténèbre. C'est pas ce que Dieu a dit. Hein? Ouais, il faut servir Dieu, mais il faut rester raisonnable. Donc je fais, mais c'est écrit où dans la Bible? Quel est le fondement de ça? Et nos vies sont pleines, et la mienne en est pleine aussi, hein, je fais la leçon à personne. Hein. J'ai des choses que j'ai acceptées comme ça, et je construis ma vie dessus, mais j'ai jamais discuté. Hein. Parmi ces idées, une qui fait énormément de tort dans notre façon de penser actuelle, c'est il y a une partie de vérité, puis après tout est faux. Hein. Dieu m'a créé, juste. J'ai qu'une vie, juste aussi, c'est une vie sur terre, donc j'ai le droit au bonheur. À partir de là, c'est normal que je me mette moi en priorité dans mon emploi du temps. Hein. Le week-end, c'est mon week-end. Les vacances, c'est mes vacances. L'argent, c'est mon argent. Quand j'en donne un petit peu à Dieu, je suis généreux. Ouah, ce mois-ci, j'ai donné 2 samedis à Dieu. Et j'ai donné 10% de... C'est énorme. On aimerait hein, que tout le monde donne 10% de son salaire. C'est pas la question. Mais non, non. Mais l'idée, c'est que c'est faux. C'est pas ça. Ma vie appartient à Dieu, j'ai été créé pour le glorifier, et j'ai été créé pour sa gloire. Mon argent, c'est Dieu qui me l'a donné tout. Mon temps, c'est Dieu qui me le donne. Ma santé, c'est Dieu qui me la donne. Tout est à lui, parce qu'il est un Dieu extraordinairement d'amour, de grâce et merveilleux. Il me laisse tout gérer. Et il m'en veut pas, quoi que je fasse. Il n'est pas fâché avec moi quand je gère mal ses intérêts. Il va pas m'envoyer en enfer pour ça. Il va même pas me punir pour ça. Je vais me punir tout seul. Savoir que je vais mal vivre, je vais être malheureux, je vais être frustré, je vais pas être rempli. C'est des conséquences, c'est même pas des punitions. Hein. Mais en même temps, c'est faux. Je suis pas venu sur terre parce que j'ai droit au bonheur et que Dieu me doit quelque chose et que le monde entier me doit quelque chose. J'aimerais que ce soit comme ça, honnêtement, ça ne me déplairait pas, hein, que le monde ait été créé pour moi, que Dieu soit là pour moi, que vous soyez tous là pour moi, pour que je sois heureux. Moi, honnêtement, j'aimerais, ça me plairait. Et je pense, si vous étiez honnête, vous aimeriez tous aussi. C'est normal, on est égoïste. C'est bon l'égoïsme, des fois. Hein. Sauf que je vis comme ça, et puis ça va pas. Hein. Mais en tout cas, que ça me plaise ou pas, c'est faux. Donc, si ce genre de pensées sont le point de départ de ma vie, là-dessus, je peux greffer un raisonnement rigoureux, précis, honnête, intelligent. Mais mon résultat est faux. Hein. Tous les enseignants dans la salle savent ça. Moi, c'était mon drame en mathématiques quand il y avait des problèmes qui se suivaient là. Hein. Je faisais une erreur de calcul sur le premier truc. J'avais un raisonnement qui était impeccable. Il y avait 30 questions et puis j'avais tout faux. Parce que j'avais fait une erreur de calcul au premier point. Tout le reste était juste, mais le résultat était faux. Alors si on avait un professeur compréhensif, il disait, bon, il y a une erreur de calcul là, le raisonnement est juste, on compte quand même. Mais j'ai eu certains professeurs qui étaient pas comme ça. Il y a que le résultat qui compte, le résultat est faux. Et j'étais très frustré parce que je disais, mais pourtant j'ai réfléchi intelligemment, mon raisonnement était correct. Oui, mais il y a une erreur au premier calcul. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec nous, et c'est ce que Jésus nous raconte quand il dit « au jour du jugement dernier », il y a des gens qui vont dire « mais j'ai été honnête, j'ai été gentil, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit, j'ai fait etc. etc. » Ouais, mais il y a une erreur au départ, c'est que ta gentillesse t'envoie pas au ciel, parce que tu es pécheur comme tout le monde, et tu es peut-être gentil, mais pas assez pour être accepté dans la présence de Dieu. Il n'y a que le sang de Christ qui peut faire ça. Ah. Alors, on discute pas ici comment Dieu traite les gens qui savaient pas, qui ont pas compris. C'est un sujet qui me dépasse, c'est pas le sujet ce matin. Mais pour nous, nous savons, ou nous pouvons savoir. Et c'est pour ça que, Seigneur, auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, je veux voir la lumière. C'est Dieu qui nous donne les yeux pour voir la lumière qu'il a créée. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est lui qui nous donne tout. Mais il y a une chose qui dépend de moi. Les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle est venue dans le monde et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Accueillir, connaître, vouloir, recevoir, accepter, croire. J'ai pris un petit peu ces quatre définitions dans le texte original. J'ai mis tout ça ensemble. Et avec les différents sens qu'il y a, et ça me donne ça. Prendre, recevoir, accueillir, faire confiance, s'associer, joindre à soi, se saisir, se mélanger. Il y a l'autre synonyme. Mais c'est ce que nous devons faire avec la pensée de Dieu, avec cette lumière. La pensée de Dieu vient au travers de sa parole, par une situation ou par une autre, et moi je dois lui faire confiance, la recevoir. Le mot pour recevoir, un des mots pour recevoir, veut dire prendre et s'approprier. Le mot pour connaître, c'était le mot qui parlait aussi de l'union entre un homme et une femme dans le mariage. C'est pas juste je sais qu'il existe. Non, c'est on a une relation, on se connaît, on partage tout. Christ est venu, ça c'est Noël, il a été envoyé, il y a eu le premier accident, il y a les ténèbres, il y a la lumière qui vient, mais est-ce que je l'accepte? Comment je le reçois? Et ce qui est extraordinaire, c'est que là aussi, pouvoir recevoir, c'est une grâce. Si Dieu m'en donnait pas la capacité, je peux pas le faire, je peux pas le fabriquer. Mais je suis incapable, et les théologiens se disputent sur ces choses-là depuis des siècles, d'expliquer exactement comment ça se passe. Parce que si c'est tout Dieu qui le fait, alors pourquoi tout le monde ne le fait pas? Si c'est lui qui décide, alors je suis pas coupable, puisque j'ai pas le choix. C'est très compliqué dans ces choses-là. Mais ce qui est quand même clair, c'est que nous avons à accepter, à recevoir, à faire confiance. Je sais pas exactement où ça se passe, comment ça se passe. Mais c'est une possibilité que nous avons. Et ça doit devenir très concret, parce que pour nous, on s'en tient trop souvent à une grande généralité. Dieu existe, la Bible est vraie, il faut être honnête. C'est bien. Mais c'est vraiment un raccourci, tellement raccourci que c'est plus la vérité. Ces choses-là sont vraies, mais si elles sont toutes seules, elles sont pas suffisantes. Parce que si Dieu existe, alors Dieu pense. Et si Dieu pense, qu'est-ce qu'il pense? Et Dieu a une pensée sur tous les domaines de ma vie. Qu'est-ce que Dieu pense sur ma vie avec mes enfants, sur ma vie avec mon conjoint, sur ma vie au travail, sur ma vie de pensée intérieure, sur mes relations, sur ma façon d'occuper mon temps, de dépenser mon argent, sur comment je fais mon emploi du temps, sur ce que je... etc., etc. Et la vie du croyant doit avoir ce but-là. Accueillir chaque jour la lumière. C'est pas une fois par an, une cérémonie, on met des bougies, c'est très joli. Merci Monique qui est pas là, celle qui a fait cette décoration. Mais si c'est juste ça, c'est du folklore. Bon, c'est un beau folklore, mais c'est pas suffisant. Et je suis dans la même situation, la lumière est venue et je l'ai pas reçue. Elle a brillé et je l'ai pas accueillie. Elle est venue vers moi et j'y ai pas cru. Mais heureusement, il y a une belle promesse. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui l'ont prise, qui l'ont saisie, qui se la sont appropriée, qui l'ont obtenue, par grâce, mais elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut pas croire que cette expérience, c'est juste ce que nous appelons la conversion. Un jour, je croyais pas et après, je croyais. Ou j'ai toujours cru parce que je suis dans une famille chrétienne, mais un jour, j'ai dit oui à Jésus. Et puis, peut-être, je me suis fait baptiser. Super. Et puis là, je suis devenu enfant de Dieu. C'est vrai. Mais c'est pas tout. C'est le point de départ. C'est comme si quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il est marié, et puis vous disiez, alors, comment ça se passe avec ta femme? Ah ben, il y a 30 ans, je l'ai rencontrée. Mais à part ça, ben, il y a 30 ans, je l'ai rencontrée. Et puis, vous habitez pas ensemble? Non, pourquoi faire? Il y a 30 ans, je l'ai rencontrée, puis elle est repartie chez elle, et moi, chez elle, on est mariés. Oui, il y a le jour du mariage, le but, c'est de vivre ensemble, hein, avec tout ce que ça implique. Mais nous, on fait ça avec Dieu. Ah, un jour, je l'ai rencontré. Vous pouvez donner un témoignage? Oui, il y a 45 ans, j'ai rencontré Dieu. Et je suis devenu enfant de Dieu. Alors, c'est vrai, hein, c'est le point de départ. S'il n'y a pas de point de départ, il n'y a rien. Mais c'est tous les jours que je dois vivre cette chose-là. Pas recommencer l'étape initiale. Je ne me remarie pas tous les jours avec mon épouse. C'est fait une fois pour toutes. Jusque ce qu'à la mort naturelle nous sépare. C'est ce qu'on voit dans les préparations au mariage, hein. J'ai rajouté ça à la formule. Jusqu'à ce que la mort, virgule, naturelle nous sépare. Pas donner des idées. Mais dans notre vie avec Dieu, tous les jours, quand la lumière de Dieu vient, je peux l'accueillir. Et si je l'accueille dans un domaine particulier, elle va transformer une partie de moi pour que je sois son enfant. Hein, je le suis déjà, mais pour que ça se passe en réalité dans ma vie. Et c'est tout le temps. Hein. Et c'est pour ça que si je suis avec, ah ben non, mais on a toujours fait comme ça, je sais comment il faut faire, non, ça j'aime pas, ça me plaît pas, ça je pense que, ça c'est pas fait pour moi, ça c'est. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que Dieu a dit, hein? Vous vous rappelez, dimanche dernier, j'ai parlé de Marie. Marie, elle avait son plan pour sa vie. Je vais me marier, mon mari est super, il est charpentier, puisqu'il est charpentier, il pourra faire une grande maison, c'est super, on aura 5 enfants, peut-être 6, on va faire ci, on va faire ça, le week-end on ira à la mer. Bon, elle avait, comme tout le monde, ses rêves. Et puis là, il y a Dieu qui vient lui parler par un ange, voilà Marie, tu vas te retrouver enceinte. Ouf, comment c'est possible? L'ange lui explique, ah, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Ça, c'est beau. Mais j'ai besoin d'être comme Marie à chaque jour de ma vie. Je me lève et j'ai mes plans pour ma journée. Je vais m'occuper de moi, je vais penser à moi, je vais faire ce qui est bien pour moi. Hein? Vous connaissez l'évangile selon moi. Hein? Je me moi, la Sainte Trinité. Aimez-moi les uns les autres. Il y a plus de plaisir à me donner qu'à recevoir. Hein? C'est notre évangile préféré, l'évangile selon moi. Je l'écris souvent d'ailleurs, je suis un spécialiste. Et là, il y a la pensée de Dieu qui vient et qui éclaire autrement. Et Dieu me dit, évidemment que je t'aime. Je t'aime tellement que j'ai donné ce que j'avais de plus cher pour toi. Je peux rien faire de plus. Et je veux te remplir de moi. Et je veux te transformer à mon image. Et je veux que ton amour, que mon amour t'inonde. Et je veux te donner un avenir. Et je veux que ta vie ait du sens. Dieu n'est pas là pour nous martyriser, quoi. Hein. Mais pour que ça se fasse, il faut que j'accepte sa lumière. Et sa lumière veut dire que les axiomes de ma vie doivent changer. Et ça fait peur. C'est la panique complète. Mais on a toujours fait comme ça. On a toujours pensé comme ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde une culture de l'extérieur, ça nous fait toujours rire avec les autres. Hein. J'ai ce vieux missionnaire que j'ai connu personnellement, qui était en Afrique. Alors, les missionnaires à l'ancienne, hein, ils vivaient 3 jours de marche à pied pour arriver dans le village où ils vivaient. La machette, pas de téléphone, pareil, ils vivaient dans une case, etc. Puis, ils vivaient avec les gens et ils voulaient, entre autres, en plus de leur annoncer l'évangile, améliorer leur vie. Donc ils s'étaient aperçus qu'ils avaient une espèce de plante qu'ils cultivaient, et puis ils avaient une récolte par an, puis à la fin c'était la famine. Puis ils avaient trouvé que en changeant les dates et en cultivant un peu différemment, on pouvait faire 2 récoltes par an. Alors il leur explique, puis ils le croyaient pas. Il dit ben moi je vais le faire. Alors dans son jardin il fait, et puis il fait 2 récoltes par an. Et puis tous les gens étaient émerveillés en disant oh, mais c'est extraordinaire. Mais ils n'ont pas fait. Puis je leur dis, mais pourquoi vous le faites pas? Parce que c'est pas comme ça qu'on fait, on n'a jamais fait comme ça. Après, il allait à la chasse avec eux, et puis il faisait des pièges avec des lianes pour attraper des animaux, et puis sur 10 pièges, il y en avait 8 où la liane cassait. Il disait, mais pourquoi vous mettez pas des lianes plus grosses? Parce qu'on a toujours fait comme ça, les ancêtres ont dit qu'il fallait faire comme ça. Alors nous, on écoute ça ici en Suisse, on est mort de rire. Quels imbéciles, c'est primitif, non mais franchement, on a bien raison de dire que nous, hein, etc. Mais si eux venaient ici et nous voient, ils seraient morts de rire, hein. Parce qu'on est pareil. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Pourquoi? Parce que mon grand-père faisait comme ça et que son père faisait comme ça. Et qu'on m'a dit qu'il fallait... Puis on peut même pas faire autrement. Ça se saurait. Hein. On n'ose pas. Pourquoi? Parce que c'est l'axiome de ma vie. Mais Dieu est à l'extérieur de toutes nos cultures. Et je sais pas s'il rit ou s'il pleure. Mais il dit, oh là 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 là, que c'est compliqué. La lumière vient dans mon monde et mon monde la refuse. Et pourtant, il y a des Jean-Baptiste. Il y a des gens autour qui nous disent, des frères, des sœurs, des livres, des idées, des situations, qui nous disent, eh oh, il y a la lumière qui vient, ouvrez vos yeux. Et puis, ben non. Et comment je sais si je vis dans la lumière? Ben, le test, c'est chacun pour soi qu'on le fait, c'est pas pour les autres, hein, attention. Hein. C'est que la conclusion, la conséquence dans ma vie pratique va correspondre avec ce que Dieu dit. Parce que si je pense, oui, mais moi je suis quelqu'un de très dévoué, je vis pour les autres, mais que dans ma vie, en fait, je vis que pour moi, il y a incohérence. Donc c'est que ma lumière est ténèbre. Je prétends que, je pense que, et je suis sincère. C'est juste que je suis parti du mauvais point de départ. Vous comprenez, si le point de départ, c'est que ma vie m'appartient, elle est à moi, et de donner déjà tout ce que je donne à Dieu, c'est beaucoup. Je suis un héros par rapport aux autres. Mais si le point de départ, c'est que ma vie, elle est à lui, ouf, alors, c'est-à-dire, je te vole les trois quarts. C'est plus pareil. Hein. Quel est mon point de départ? Le point de départ, c'est celui de la pensée de Dieu. Comment je le trouve en accueillant Dieu, hein. Alors c'est pas l'idée qu'il faut faire ce qui est désagréable, qu'il faut se traumatiser, qu'il faut toujours prendre ce qui est pas bien. Non, Dieu veut notre bien. Dieu est bon. Dieu a créé tout ce qui est bon pour que on en use avec reconnaissance. Donc on n'est pas dans une approche. Il faut se frapper le dos pour que Dieu soit content. Mais juste, c'est une question d'ouverture à la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que ce moment où on célèbre la fête de Noël, hein, qui est d'ailleurs un énorme paradoxe, puisque c'est la plus grosse fête matérialiste de la planète, pour célébrer la venue de quelqu'un qui a été accueilli par personne et qui est né dans une étable. C'est assez fou, cette histoire, quoi. Mais c'est comme ça. Et notre préoccupation, c'est le menu du 25, est-ce que la dinde sera assez grosse, est-ce qu'il y aura assez de vin blanc dans la fondue, est-ce que les cadeaux seront bien emballés, est-ce que... Vous fêtez quoi? Ben c'est Noël, la venue de Jésus, vous savez. Et alors donc, il faut pas oublier le champagne. Et encore une chose, ces choses-là sont pas mauvaises si on les a, hein, et qu'on les apprécie et qu'on les consomme avec reconnaissance. Mais c'est pas le but. Et si à un moment je dois les laisser de côté parce que la lumière de Dieu m'amène à faire autre chose, alors je dois le faire. Et je suis pas un héros parce que je l'ai fait. C'est normal, ma vie appartient à Dieu, hein. Donc, on va laisser Dieu nous convaincre lui-même avec toutes ces choses-là. Et puis, aussi se rappeler que, oui, je peux exhorter mon frère ou ma sœur, mais je suis pas à la lumière de l'autre. Le Saint-Esprit est là pour ça. La parole de Dieu est là pour ça. Donc, c'est une réflexion qui doit s'appliquer à nous-mêmes, chacun. Hein, et je commence par moi, bien sûr. Mais aller devant Dieu et dire, Seigneur, bah écoute, je suis ce que je suis, puis tu le sais, puis tu m'aimes comme ça, mais j'accepte ta lumière, montre-moi, quelle est la prochaine étape dans ma vie? Quelles sont les choses que je considère comme établies, normales, mais qui ne le sont pas? Je ne vais pas me traumatiser, me frapper le dos, mais montre-moi. Je vous promets que si vous priez comme ça sincèrement, ça risque de changer les choses dans chacune de nos vies, hein. Avec gentillesse, avec douceur, dans son temps, à son rythme. Dieu est bon, Dieu nous aime. Hein. Et puis c'est le meilleur pédagogue du monde. Nous sommes ses enfants. S'il a donné son propre fils pour nous, c'est pas pour après nous taper dessus. Donc attention, pas une compréhension négative de l'amour de Dieu. Mais en même temps, accueillons sa lumière qui remet les choses en place de la bonne façon. Seigneur, nous te demandons que dans cette période où nous célébrons de façon traditionnelle ta venue sur terre, nous puissions, nous, dans nos cœurs, jour après jour, moment après moment, accueillir ta lumière. Que nous puissions avoir le courage, l'humilité, la détermination de Marie. Et te dire au fond de nos cœurs, même si nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes, je suis ton serviteur, que ta parole à mon égard s'accomplisse. Conduis-nous dans les chemins que tu as tracés. Par ta lumière, nous pouvons voir la vraie lumière. Ouvre nos yeux, guéris-les, délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur, et conduis-nous dans le chemin de l'éternité. Merci de nous remplir de toi jour après jour pour que nous puissions rayonner, que nous puissions consoler, que nous puissions délivrer, encourager, faire du bien à ceux qui sont autour de nous, à tous ceux qui encore sont dans les ténèbres parce qu'ils ne t'ont pas accepté, pas reçu, pas accueilli, qu'ils croient en toi ou non, et que nous puissions être tes instruments pour que ce que tu as commencé en venant sur terre se poursuive au travers de ton Église, par ton Esprit. Merci Seigneur pour ce moment ce matin où nous pouvons nous exposer à ta lumière et être réchauffés, éclairés, encouragés et aussi repris et conduits dans les voies qui sont les tiennes, Seigneur. Amen.